Mais nous recevons aujourd'hui Philippe Nemo, ce qui est à la fois un honneur, un plaisir et une joie. Et parce qu'on le connaît depuis longtemps, j'ai lu ses livres avant de le connaître. Et ils ont eu beaucoup d'influence sur moi. Donc c'est un de ces esprits qui a beaucoup réfléchi sur la société, les théories économiques, les théories politiques. Et aujourd'hui, ayant passé une vie consacrée à l'enseignement, je crois qu'on peut le dire. Vous êtes consacré toute votre vie à l'enseignement. Vous arrivez en fin de carrière, vous avez créé une nouvelle école qui essaye de reprendre un peu ce que faisait Normale Sup dans les bonnes années. Mais je voudrais vous interroger, vous, en tant que spécialiste de l'enseignement, qu'est-ce qui arrive à nos sociétés? Pourquoi a-t-on cette déliquescence? Qu'est-ce qui est arrivé à l'école républicaine? Quand j'étais gamin, je pouvais aller, selon les postes où était mon père, chez des jésuites ou au lycée du coin. Et les deux enseignements dans les villes de province étaient de qualité équivalente. Et puis maintenant, comme vous le savez, l'enseignement est devenu une fabrique de crétins. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est en train de devenir idiot? Est-ce qu'on a fumé trop de marijuana? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour nos auditeurs.
Non, mais si vous dites que le monde est peuplé de crétins et qu'il a l'air d'être devenu fou, il y a en réalité deux questions complètement différentes dans cette question. C'est un versant subjectif et un versant objectif. Objectivement, si vous voulez, le monde est incompréhensible, il est difficile à comprendre. Et il en a été ainsi à toutes les générations, évidemment, parce que d'abord, le monde est très complexe. Mais dans certaines périodes historiques relativement stables, vous avez un certain cadre de vision hein, qui se met en place en quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années. Et pendant tout ce temps-là, il fournit une grille d'interprétation qui permet de se repérer dans le monde, tant qu'il ne change pas trop. Et puis, à vos jours, il y a des changements très importants. Alors, ça peut être je sais pas, les grandes découvertes au moment de la Renaissance, ça peut être l'invention de l'imprimerie, ça peut être des grandes guerres, je sais pas, la grande peste. Et du coup, le monde change et les hommes qui avaient les anciennes catégories n'arrivent plus à l'interpréter parce que ces anciennes catégories ne sont pas faites pour comprendre ce monde-là. Donc, il faut toute une période où des intellectuels vont construire des nouvelles catégories. Et ça prend des dizaines d'années. Et ça commence souvent d'ailleurs par la philosophie. Hein. Donc on dit suffisamment de mal de la philosophie pour que je profite de l'occasion pour en dire un peu de bien. Parce que précisément, les philosophes sont des gens qui s'étonnent de ce que le monde est incompréhensible et qui essayent de trouver les paradigmes qui permettent d'y mettre de l'ordre, si vous voulez. Donc ça, c'est le côté objectif. Et aujourd'hui, le monde est en effet en train de subir d'immenses, d'immenses changements. Vous avez cette augmentation invraisemblable de la population mondiale. Je rappelle qu'il y avait 500 millions d'habitants au XVIIIe siècle, sur toute la planète. Et il y en a maintenant près de 8 milliards. Hein. Donc ça change énormément de choses. Et puis deuxièmement, il y a la mondialisation. Ça change, enfin, la population en tant que telle change énormément de choses pour tout ce qui concerne l'environnement. Mais il y a d'autre part la mondialisation qui s'est accélérée avec l'informatique. Domaines qu'on ne peut pas reconnaître à travers des catégories anciennes. Il faut tout un travail intellectuel pour essayer de comprendre le monde actuel. Donc, c'est pas étonnant qu'on ne le comprenne pas. Il est plus complexe qu'il n'a jamais été. Et personne ne sait exactement ce que sera je sais pas, l'éducation qui se fait par le fait que tous les enfants ont des écrans, par exemple. Personne ne sait quelle sera la conséquence de ça. Hein. Vous savez qu'il a quand même fallu quelques siècles pour que McLuhan fasse toute une interprétation sur les conséquences sociétales de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Hein. Mais au début, cette invention a produit plein d'effets avant que des sociologues fasse une théorie de ce qui s'était passé, dans quelque sorte. Donc, de la même façon, avec Internet, avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, il peut se passer des quantités de choses. Il peut se passer des quantités de choses aussi avec les inventions biologiques, avec les manipulations génétiques, avec les chimères, avec tout ce qu'on peut inventer pour guérir des maladies, mais aussi pour créer des pandémies, comme on l'a vu avec le coronavirus, qui a probablement une origine humaine. Une origine d'erreur, hein, d'erreur de manipulation. Alors tout ça est très compliqué, n'a jamais existé tel quel dans le passé. Alors on peut toujours dire que l'homme est toujours l'homme, et bon, il y a toujours la vie, la mort, l'amour et la méchanceté. Ça c'est vrai, mais s'il s'agit d'analyser le monde et d'essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer dans le monde, nous sommes dépourvus d'outils. Et puis, alors ça, c'est le côté objectif. Mais la phase subjective, c'est que encore faut-il avoir des esprits solides, capables d'essayer au moins de créer une nouvelle intelligibilité. Donc, il faut des esprits formés au rationalisme, et ce sont ces esprits-là qui seront capables de chercher les nouvelles raisons du monde, si vous voulez. Mais s'ils n'ont pas été formés au rationalisme, enfin, à une pensée scientifique organisée et saine, ils ne pourront même pas partir à la recherche d'une intelligibilité nouvelle du monde actuellement incompréhensible. Et là, si vous voulez, il y a une différence peut-être entre la France et d'autres pays, puisque la France caracole en queue de tous les classements internationaux. Des pays comparables, hein, je ne dis pas que la France est forcément derrière le Zimbabwe, hein, mais dans les pays comparables, malheureusement, la France est toujours de plus en plus mal classée. Vous savez, elle est même dernière, peut-être même qu'elle est derrière le Zimbabwe en mathématiques, puisqu'elle était la dernière du classement pire là, sur les compétences en mathématiques. Donc, si vous voulez, il y a un problème spécifiquement français de formation de la jeunesse, de formation intellectuelle défectueuse de la jeunesse. Et je suis en train enfin, je me suis beaucoup intéressé, comme vous savez, aux questions d'école. J'ai écrit plusieurs livres sur la question. Et là, je suis en train d'écrire, je ne sais pas si je vais y arriver dans les temps, mais un article sur un aspect des pédagogies nouvelles qu'on a imposé. Vous savez qu'il y avait jadis, enfin, vous et moi, nous sommes d'une génération telle qu'on a connu des bons lycées ou des bons collèges de jésuites. Et puis, il y a eu des grandes réformes à partir de la Ve République qui ont abouti au collège unique, enfin à l'école unique en fait, hein, pas seulement le collège, mais l'école, le collège et les premières classes du lycée. Et ceci, je ne veux pas développer ça parce que j'ai écrit 100 articles sur la question, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ceci s'est traduit par un effondrement de l'enseignement. Parce que vous ne pouvez pas enseigner sérieusement, enfin, tout le monde est allé dans l'enseignement secondaire. Mais jusque-là, seule une minorité y allait, et c'était une minorité capable de suivre dès l'âge de 10-12 ans la formation aux rudiments des sciences. Rudiments élémentaires par définition, mais déjà scientifiques, et donc supposant une aptitude à la pensée abstraite, si vous voulez. Or, tous les enfants, tous les enfants peuvent virtuellement passer du stade du développement de l'intelligence, dont a parlé Piaget, hein, le fameux psychologue Piaget. Ils peuvent tous passer du stade concret et intéressé en premier lieu, puis dans un stade intermédiaire, et aboutir au stade de la pensée abstraite et désintéressée, qui est celle qui peut saisir les sciences, qui peut rentrer dans une problématique scientifique. Mais s'ils peuvent tous virtuellement passer les trois stades, ils ne le passent pas à la même vitesse. Donc, la vitesse avec laquelle, enfin, à laquelle ils traversent ces stades dépend de l'environnement dans lequel ils vivent. Un peu comme une plante pousse plus ou moins vite selon qu'elle est bien arrosée ou mal arrosée. Et évidemment, tous les enfants qui naissent dans une famille déjà cultivée, qui a déjà fait des études supérieures et a déjà acquis un esprit scientifique, leur intelligence est sollicitée d'aller dans ce sens plutôt qu'elle ne l'est dans les milieux populaires, ou du moins dans certains milieux populaires, parce qu'il ne faudrait pas être trop schématique, où les travailleurs sont des exécutants et par conséquent, ils n'ont pas besoin d'avoir une vision théorique des choses. Hein. Et ils communiquent ce souci du travail bien fait, mais tel qu'on ne s'interroge pas sur ses tenants et les aboutissants, ils le communiquent spontanément à leurs enfants, qui du coup arrivent à l'âge d'entrée en sixième, moins mûrs que les enfants qui sont venus d'autres familles. Et du coup, l'erreur monumentale qui a été faite par De Gaulle, hein, par De Gaulle, mais le malheureux n'était pas censé tout savoir et tout comprendre, mais d'ailleurs, ses ministres lui ont fortement déconseillé, Monsieur Pompidou et Monsieur son échappe, un célèbre ministre de De Gaulle, lui ont déconseillé, mais il a voulu mettre à exécution le plan d'école unique qui avait été élaboré par les francs-maçons depuis 1924. École unique, hein, le thème de l'école unique était le slogan 1924, dans un grand congrès dirigé par le numéro 2 du PS de l'époque, qui était Marcel Déat, qui est devenu ensuite, comme vous savez, le chef du parti nazi français. Vous cherchez l'erreur. Hein. Il fallait une école unique, et il fallait supprimer toute espèce d'école libre, et il fallait que tous les Français aillent dans la même école pour qu'ils soient formés dans un même moule et qu'on obtienne enfin cette société égalitaire. Alors, ce plan a été repris par la commission Langevin-Wallon à la fin de la Seconde Guerre, puis officialisé en 1947. Il a été retoqué deux fois sous la 4e République, parce que les gens voyaient bien que les députés sous la 4e République, beaucoup d'entre eux étaient professeurs de lycée, alors ils voyaient bien que c'était la ruine de l'enseignement secondaire. Mais quand De Gaulle est arrivé, il a exécuté ce plan. Alors c'est difficile de le juger, parce qu'à l'époque, on n'était pas loin du coup de Prague, il pensait que s'il donnait aux socialo-communistes cette os à ronger qui était l'école, il le laisserait gérer l'économie de façon dynamique et libérale par ailleurs. Si vous voulez. Il n'aurait pas de coup de Prague. Bon, donc, mais du coup, il leur a laissé l'école. Et comme ces gens-là étaient égalitaristes, ils ont constaté que l'enseignement secondaire, auquel on voulait faire parvenir tous les jeunes Français, eh bien, tous les jeunes Français n'étaient pas capables de le suivre. Voilà. Parce qu'ils n'avaient pas les catégories mentales pour cela. Et du coup, on a, après quelques années de tâtonnement, on a dit, ben voilà, puisque l'enseignement secondaire pour tous, ça ne marche pas, et puisqu'on ne veut pas renoncer à l'école unique, il faut primariser le secondaire. Et c'est ce qu'on a fait en disant que puisque la plupart des enfants arrivant à l'âge d'entrer en sixième ne sont pas encore au stade de la pensée abstraite, il faut une pédagogie complètement différente de celle des lycées. Il faut une pédagogie partant du concret, c'est-à-dire selon une démarche inductive qui consiste à passer du concret à l'abstrait progressivement. Hein. Et par conséquent, il ne faut plus de cours théoriques, parce qu'on part de l'abstrait, hein, mais il faut des démarches inductives, des méthodes actives. Alors ça peut être les images, les récits, les promenades éducatives, le travail en groupe, tout ce dont je dirais un mot ensuite. Alors là-dessus, ça aboutit à primariser le secondaire et à faire effondrer complètement le niveau. Et comme toujours dans un grand pays, quand vous avez des politiques totalitaires qui se mettent en place, vous avez des gens qui essayent d'y échapper, hein, vous avez des effets pervers, et là l'effet pervers c'est qu'on a cru les élites, si vous voulez, ont cru que c'était pas très grave parce qu'ils auraient toujours quelques bons établissements où mettre leurs enfants. Alors évidemment l'école privée qui du coup a eu un boom extraordinaire pour cette raison, parce que c'était un lieu de refuge pour beaucoup de parents, mais aussi beaucoup d'écoles dérogatoires dans le système public lui-même. Alors, Henri IV et Louis le Grand, ce n'est pas la même chose que d'autres lycées. Et on a cru que comme ça, les enfants de l'élite pourraient continuer à rentrer à l'école polytechnique ou à HEC. Mais l'évolution était hélas irréversible, et maintenant, j'ai pas eu le temps d'en parler là, mais on a fait une réforme du CAPES, qui est le principal concours de recrutement des professeurs du second degré, dans lequel il n'y a plus du tout de savoir académique. Hein. La seule chose qu'on demande aux gens qui veulent devenir professeurs, c'est d'être capable d'animer hein, ce travail de groupe où les élèves sont censés découvrir par eux-mêmes les savoirs et chacun à son rythme. Et par conséquent, le professeur ne doit pas faire un cours abstrait et unique pour toute la classe, mais il doit mettre en œuvre des techniques qui permettent à chaque groupe d'élèves ou à chaque élève individuel de tâtonner et d'avancer. Alors, je pourrais choisir pendant des heures, parce que je me suis beaucoup intéressé à ces questions depuis des années, mais je voudrais simplement un mot sur une des techniques principales. Le but de l'application de ces techniques n'étant pas du tout d'améliorer l'enseignement. Il faut rendre cette justice aux nouvelles pédagogies qu'elles n'ont jamais voulu améliorer l'enseignement.
Eh bien, elles ont réussi, hein. Elles ont réussi, ça. Elles ont réussi.
Ben, elles n'ont pas réussi à l'améliorer.
Elles ont réussi à ne pas l'améliorer.
Le but, ce n'était pas d'améliorer l'enseignement, c'est un grand succès.
Elles ont réussi à ne pas atteindre ce but, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était délibéré, c'était une ruse, si vous voulez. C'était pour rendre possible le maintien de l'école unique, auquel les révolutionnaires ne voulaient pas renoncer parce qu'ils en attendaient une transformation profonde et irréversible de la société. Donc, il n'était pas question d'y renoncer. Hein. Mais en même temps, si on gardait le secondaire traditionnel, ça avait un effet pervers monstrueux, c'est qu'à la fois, seuls les bourgeois, entre guillemets, les fils de bourgeois, réussissaient, donc aucun changement par rapport à avant, mais pire, cette fois-ci, ils étaient réputés, mérités de réussir, puisque tout le monde avait eu sa chance en allant dans la même école. Donc c'était un désastre épouvantable, et donc on a préféré abaisser le niveau plutôt que de renoncer à l'école unique, en quelque sorte. Mais alors du coup, on emploie des méthodes pédagogiques telles que la séquence sur la... un article. Et c'est un des secrets de fabrique de Monsieur Jean-Paul Brigueli a écrit un livre très célèbre qui s'appelle La fabrique du crétin. Hein. Tout le monde, en tout cas, a entendu parler du titre, hein, parce que le titre était très éloquent en lui-même. Hein, il désignait l'éducation nationale qui fabrique des crétins. Et moi, je me suis dit, mais enfin, fabriquer des crétins, c'est peut-être pas si simple que ça. Hein, puisque dans chaque génération, vous allez avoir une poignée de crétins, malheureusement, comme il y a une poignée de grands génies. Mais que la majorité des jeunes soient des crétins, ça va pas de soi. S'ils le sont au sens scolaire, après 10 ans passés à l'école, c'est qu'on les a fabriqués, ces crétins. On les a rendus crétins, si vous voulez. Et donc, je me suis intéressé au secret de fabrique employé par l'usine Éducation nationale pour fabriquer des crétins à la chaîne. Hein. Alors, un de ces secrets de fabrique, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est la séquence. L'origine, c'est des pédagogues anglo-saxons. J'ai sous les yeux, et je vous montre parce que je suis en train de terminer, un livre d'un certain Popham et Becker, qui s'appelle, la traduction s'appelle « Comment programmer une séquence pédagogique ?» Et c'est un livre qui date de 1970. Donc, il a été traduit en français, et le thème s'est répandu. Hein. Et encore une fois, l'usage de la séquence est devenu une obligation. Est devenu d'abord une habitude, et ensuite, est désormais une obligation. Et les jeunes professeurs, au concours qu'ils passent pour devenir professeurs, ne doivent rien prouver d'autre que le fait qu'ils savent faire des séquences. Alors, le mot « séquence » est trompeur, parce que j'oublie pas votre question de départ, hein. C'est-à-dire comment notre France a du mal à bien comprendre le monde moderne. Pour qu'elle le comprenne bien, pour que les Français le comprennent bien, il faut qu'ils aient un esprit rationnel, formé à la raison et si possible aux sciences, y compris au plus haut niveau des sciences. Bon, et je dis toutes les sciences, hein, sciences dures ou sciences littéraires, parce que les lettres sont aussi des sciences, et puis les sciences humaines. Hein. Mais dans tous les cas, ces disciplines scientifiques ne se développent que si on a la raison, un esprit rationnel. Et cet esprit rationnel doit être formé. Alors, apparemment, séquence, ça va bien dans le sens, puisque séquence, ça veut dire une suite. Je précise une séquence, par exemple, sur le réchauffement climatique. Donc, plus tard, on fera une séquence sur les stéréotypes hommes-femmes. Et puis, quand on aura fini ça, on fera peut-être une séquence sur les Indiens d'Amérique. Et puis ensuite, on fera une séquence sur l'esclavage, la traite négrière. Et puis, on fera une séquence sur, peut-être si on s'intéresse à la géographie physique, mais c'est de plus en plus rare, on fera une séquence sur les rivières et les fleuves. Bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, chaque séquence est ordonnée, mais les séquences ne se suivent pas. Et c'est donc une rupture avec la tradition d'enseignement secondaire où vous aviez ce qu'on appelle tout simplement des programmes. Des programmes de la sixième au bac et des programmes dans chaque classe de la rentrée de septembre à la sortie des classes en juin. Dans le secondaire traditionnel, il y a en effet des séquences, mais au sens du long terme, hein, c'est-à-dire séquences de la sixième au baccalauréat et dans chaque classe du début à la fin de l'année. Et je disais que la logique de tout ce programme d'apprentissage n'est pas forcément parfaite, parce que si on apprend simultanément la physique et la géographie, il y a certaines connexions qui peuvent être faites. Par exemple, c'est inutile de programmer un certain théorème de physique si on n'a pas veillé à ce que précédemment, dans le cours de mathématiques, les outils mathématiques nécessaires aient été présentés, si vous voulez. Donc, vous avez toujours eu des programmes rigoureux, hein, qui peuvent évoluer selon les années parce que les sciences évoluent. Mais enfin, l'idée, c'est qu'on sait ce qu'on veut que tous les élèves sachent au moment du baccalauréat, parce qu'on veut leur enseigner les rudiments des sciences telles qu'elles existent, et on déduit de ce point auquel on veut aboutir à la fin du secondaire, on déduit par où il faut commencer. Dans chaque discipline, comme si vous voulez, on bâtit une maison à partir d'un plan, et ensuite on détermine qu'est-ce qu'il faudra faire en premier, les fondations, et, ouais, bon. Et en même temps, il ne faudra pas oublier de commander les matériaux pour qu'ils arrivent à temps. Enfin, vous connaissez ça, c'est une technique d'ingénieur. Eh bien, c'est ça qui est entièrement, qui a été, qu'on a fait voler en éclats avec la notion de séquence. Les séquences sont bon, évidemment, on va faire des séquences différentes en sixième et en terminale, hein, mais il n'y a pas cette suite rigoureuse qui permet d'acquérir les bases de toutes les grandes disciplines. Il y a la littérature.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'ai fait des études d'économie à Toulouse il y a bien longtemps, et je n'ai compris mon programme que quand je l'ai fini. C'est-à-dire que je me disais, mais pourquoi ils m'apprennent ça? Et à ce moment-là, et je n'ai compris qu'au bout de 5 ans, j'ai regardé l'ensemble du programme et je me suis dit, mais c'était très malin. L'ordre dans lequel on m'a présenté les choses était un ordre logique et qui m'a permis de développer gentiment. Et c'est ce que vous dites, que tout ça, c'est fini.
Eh ben, tout ça, c'est fini. Et donc, je vous montre maintenant en quoi c'est une fabrication de crétins, si vous voulez, le terme est polémique, hein, mais une fabrication de gens qui ne sont pas rationnels, mais à moitié rationnels seulement, c'est que la séquence, du coup, puisqu'elle n'est pas une étape dans une longue suite où tous les éléments vont être présentés méthodiquement, de telle sorte qu'à chaque étape, alors en plus de ça, dans l'enseignement traditionnel, on vérifiait que les élèves aient bien acquis les connaissances.
Oui, il y avait des contrôles de connaissances par palier. Il y avait des paliers.
Et s'il l'avait pas acquis, on leur faisait redoubler, tripler, hein, ou alors renvoyer du lycée si vraiment ils n'y arrivaient pas. Et donc là, la démarche est tout à fait différente. On choisit de faire des séquences ex abrupto, en quelque sorte. Parfois, on dit dans le jargon pédagogique que j'ai un peu fréquenté là, on dit qu'il y a des prérequis. Bon, alors, par exemple, on ne fera pas une séquence sur le calcul différentiel si on n'a pas appris l'étape de multiplication auparavant, si vous voulez. Bon, il y a quand même quelques prérequis. Mais il n'y a pas de suite rigoureuse. Bon. Et donc, quand on aborde un sujet, attendez, je termine mon idée, quand on aborde un sujet, on n'a pas les bases qui permettraient de l'aborder de façon rationnelle.
Mais ça doit être extraordinairement difficile pour ceux qui subissent cet enseignement, parce qu'ils ont l'impression qu'ils savent, mais en fait, ils ont des trous partout. Et donc, ils doivent être dans une situation de panique totale quand ils cherchent à expliquer quelque chose, puisqu'ils ont
Mais
pas, ils...
attendez, ils ne sont pas en situation de panique totale, et c'est le pire, parce que précisément, comme on ne leur a jamais rien expliqué réellement, de façon méthodique, ils se sont habitués à ne pas comprendre. Ils trouvent normal que ce soit confus.
Ah mon Dieu, quelle horreur!
Et par conséquent, ils n'ont pas de panique, si vous voulez, puisqu'ils sont habitués. On leur dit, voilà, vous allez étudier l'art égyptien. Bon, très bien, alors on va faire une visite au Louvre, et puis vous allez faire un dossier avec, vous mettrez quelques photos de momies égyptiennes ou de statues, et puis vous essayerez de faire une petite vidéo avec les tablettes informatiques qu'on vous a offertes en groupe, hein. Donc, il y en a un seul qui travaille, en fait, et tout le monde croira avoir étudié la question. Bon, alors que personne n'a lu tous les articles qu'on a découpés et qu'on a mis dans le dossier, hein, et personne, encore une fois, n'avait les bases pour savoir de quoi on parle. Alors, autrement dit, c'est un enseignement purement impressionniste, hein, et on dirait journalistique si c'était pas déplaisant pour les journalistes, parce que les journalistes ne sont pas des éducateurs du peuple, hein, ils donnent des informations qui forcément sont un peu en désordre, toutes les informations arrivent dans le désordre, et ce sont les gens adultes qui reçoivent le message qui vont traiter ces informations, qui vont interpréter ces informations à travers les catégories intellectuelles qu'ils ont en tête. Donc on ne peut pas reprocher aux journalistes de faire du journalisme, mais on peut reprocher à l'école de faire du journalisme. C'est-à-dire que sur tous les sujets, on va faire que survoler. Et je vous dis, alors tout ça est entouré en plus d'une espèce de technique trompeuse, hein, parce qu'il y a des armées de pédagogues payés à plein temps pour faire ça. Donc ils font des tableaux très savants, des grands tableaux avec 50 colonnes et 50 lignes, hein, où on dit voilà les objectifs, sur une colonne, et puis il y a les objectifs finaux, puis les objectifs intermédiaires, et puis il y a quand même les prérequis, et puis alors voilà les étapes qu'on va suivre, parce que la séquence est divisée en séances. C'est pour ça que ça dure souvent, une séance est un cours, hein, mais une séquence fait souvent 5 ou 6 ou 7 ou jusqu'à 10 cours. Une séquence fait jusqu'à 10 séances. Hein. Alors, très bien. Donc, à chaque, on dit ce qu'on va faire à chaque. Et puis, il faut qu'à chaque séance, il y ait un objectif et un objectif qui soit formulable avec un verbe d'action. Donc, pas comprendre ou réfléchir ou savoir, mais être capable de rédiger telle chose. Bon. Parce qu'on pense que le fait qu'il y ait une sanction pratique va permettre de mesurer la performance. Mais, et puis, il y a aussi, je vous dis tout ça un peu dans le désordre, j'aurais dû préparer ma séquence. on dit aussi que pour que l'élève fasse sien le sujet étudié, il faut qu'il parte d'un problème. Parce qu'on ne peut, si on lui assène des savoirs, il n'en a rien à fiche. Hein. Il faut qu'il ait pris conscience qu'il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, il va chercher à le résoudre. Bon. Mais évidemment, si vous dites que Solon a dirigé Athènes à telle époque, le malheureux écolier, c'était pas un problème pour lui avant que vous lui parliez de Solon. Hein. Donc vous devez lui apprendre ce qu'a fait Solon, quand est-ce qu'il est né, bon, et à la suite de qui il venait et qui viendra après lui. Hein. À savoir pourquoi Solon n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Bon.
Ça nous amène donc à cette espèce de bouillie intellectuelle dans laquelle les Français se trouvent aujourd'hui, où ils sont incapables, dans le fond, de mettre leurs pensées en ordre. Ils sont, on a fait, dans le fond, on a fait dans leur cervelle une énorme maelstrom, quoi. Il n'y a pas de principe organisateur, il n'y a pas de. C'est très curieux.
Et le grand désastre ici, c'est spécialement le collège. Hein. Parce qu'à partir des grandes classes du lycée, dans les bons établissements, vous avez une sorte d'effet d'anticipation des concours.
Des classes préparatoires.
Il faut arriver à rentrer dans les grandes écoles. Pour ça, il faut être dans les classes préparatoires. Donc pour ça, il faut, dès la première ou la terminale, il faut quand même s'en occuper. Donc à ce moment-là, toutes les fadaises pédagogiques imposées par le ministère sont envoyées promener par les professeurs sérieux, hein, et chefs d'établissement sérieux. D'ailleurs, souvent, avec la complicité de l'inspecteur, hein, qui ferme les yeux, hein, parce qu'il voit bien qu'il faut faire des choses sérieuses.
Et surtout parce que l'inspecteur a ses enfants dans ce collège.
Alors, ça peut arriver, en effet.
c'est pas complètement innocent.
Moi, j'ai eu une expérience tout à fait, que je racontais d'ailleurs dans un livre. J'ai écrit un manuel pour le primaire, un manuel d'histoire pour le primaire. Et donc, j'ai dit à mon fils qui l'a édité, parce qu'il a créé une maison d'édition qui s'appelle la librairie des écoles, je fais un peu de pub pour cette maison d'édition, excellente. Et il m'a dit, il faut que vous fassiez un livre sur le manuel d'histoire, parce que je ne trouve pas de professeur capable. Alors, j'ai dit, je veux bien, mais ça fait des années que je n'ai pas vu d'enfant de 8 ans ou 9 ans, donc il faut que tu me mettes en relation avec une école primaire où je puisse observer un cours d'histoire pour voir comment ils réagissent. Alors, il me met en relation avec une dame que je ne nommerai pas pour ne pas la compromettre, qui dirigeait une école privée sous contrat quelque part dans la région parisienne, et qui me dit, mais monsieur, le mieux pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même, ce serait que vous veniez faire un cours d'histoire, par exemple la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il faudra parler de Louis XV. Mais comme cette semaine, on leur a parlé de Louis XIV, il faudra que vous les interrogiez d'abord sur Louis XIV. Je dis très bien, bon. Alors, pendant la semaine, je révise à fond mes deux règnes, un peu tremblant, et j'arrive devant plein de bambins, très, très excité. En plus, vous avez une personne extérieure qui venait dans un petit événement, et je leur dis, les enfants, il faut que je vous interroge, je vais vous parler de Louis XV, mais il faut que je vous interroge d'abord sur Louis XIV. Qui peut me dire quand il est né? Moi, monsieur, 1638. Quand est-ce qu'il est mort? Regarde la main levée. J'ai dit oui, monsieur. Le 17 septembre 1715. Je ne sais pas si c'était le 17 septembre, parce que moi-même, je ne connais pas la date précise. Mais lui avait retenu la date précise et il voulait la préciser. Alors, j'étais un peu surpris. Et puis, je l'ai interrogé, mais qu'est-ce qu'il a eu comme ministre? Colbert, d'accord. Louvois, Le Tellier, il connaissait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait comme grand établissement à Paris? L'Observatoire, qui dirigeait l'Observatoire? Cassini. J'étais absolument soufflé. Il connaissait par cœur la ville de Louis XIV. Et donc après, j'ai fait mon cours sur Louis XV, et puis j'ai dit, Louis XV a fait... Je voulais pas trop parler des maîtresses de Louis XV, alors j'ai plutôt parlé d'un événement en effet important sous le règne de Louis XV, c'est la rédaction, de la confection de la première carte d'état-major de tout le royaume, hein, et qui a été faite précisément par Cassini, descendant de celui qui avait fait l'observatoire sous le règne de Louis XIV. Alors, ils étaient tout à fait... Vous savez, parce j'ai eu affaire à des esprits rationnels. Ça m'a beaucoup frappé. Ils avaient des têtes de bébés, c'était des bébés, mais ils étaient parfaitement capables d'apprendre des choses, de s'en souvenir, de ne pas mélanger. Hein. Et c'était même, si vous avez encore une minute, je peux vous raconter encore un détail de cette expérience. Je dis, oui, Cassini a fait une carte, mais qui était encore pas très détaillée, parce qu'elle était au 90 millième. En réalité, elle était au 88 millième, 600, je sais pas quoi. J'arrondis à 90 millième, et je me tourne vers la maîtresse qui était là, et je dis, est-ce qu'ils ont étudié les échelles? Alors, elle me dit, non, pas encore. Bon, je lui dis, écoutez, c'est pas grave. Simplement, la carte est 90 000 fois plus petite que la réalité. Donc combien mesure... quelle réalité représente un centimètre sur la carte? Alors, les enfants me regardent, je taise, et personne ne répond. Donc j'enchaîne. Et puis, 2 minutes après, dans un silence, il y avait un petit garçon au premier rang qui dit « 900 mètres !» Il avait fait le calcul mental pendant tout ce temps-là. Et donc j'embrasse la directrice d'école. J'étais absolument ravi, magnifique. Mais est-ce que l'inspecteur vous laisse faire ça? Il me dit, il ferme les yeux. Mais monsieur, je suis très triste parce que l'année prochaine ils vont aller au collège et tout ça disparaîtra.
Oui, moi aussi j'ai eu des maîtresses qui m'ont dit ça.
Voilà. Et donc, alors, ça disparaîtra parce que ça avait existé. Bon, ça avait existé dans cette école parce qu'il y avait 7 directrices et forgé à sa main, si vous voulez. Hein. Mais évidemment, il y a aussi des cas où ça disparaît pas parce que ça n'a jamais existé. Hein. Mais vous avez un problème horrible dans le collège qui détruit la rationalité. Alors, on peut revenir simplement un peu en détail sur comment ça la détruit, si vous voulez. C'est que vous avez donc, mettons comme thème, la religion. Je l'ai vu, hein, c'est parce qu'il y a plein de fiches, d'exemples. Le ministère n'est pas avare de fiches pédagogiques. Et donc, la religion gréco-romaine. Bon. Alors, quel est l'objectif? Que les élèves aient une idée de la religion gréco-romaine. Quels sont les objectifs intermédiaires? D'abord la religion grecque et puis la religion romaine. On va diviser un peu. Et puis, on va utiliser des moyens et parmi lesquels le cours n'est qu'un aspect mineur. Il est entendu que dans une séquence, la part du cours professoral, du cours magistral, sera minoritaire. Le reste, dans le temps, si vous voulez. Il y aura quand même quelques exposés, professeur. Mais dans le temps, la plus grande partie du temps sera occupée par des travaux individuels. Si on a trouvé un problème pour partir, il faut d'abord que les élèves essayent de résoudre le problème tout seuls. Bon, dans un second temps, ils vont se mettre en petits groupes pour voir si un copain n'aurait pas trouvé une solution au problème. Et puis, c'est quand ils auront tenté plusieurs pistes infructueuses qui, du coup, ils trouveront un intérêt pour la piste vraie que le professeur leur dira à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il faudra qu'ils aillent au centre de documentation, chercher tel ou tel livre, tel ou tel journal, et puis qu'ils cherchent sur Internet. Hein, c'est évident, c'est la grande chose d'aujourd'hui. Et qu'ils discutent en groupe. Et alors, vous imaginez hein, les discussions de groupe au sujet de la religion gréco-romaine. Ça va dépendre des lectures des uns et des autres, de ce que leur père et mère leur ont raconté ou pas. Ils vont se disputer, là, parce qu'évidemment, ils vont pas être d'accord. Et à la fin de la séquence, ils seront censés savoir ce que c'est que la religion gréco-romaine. À aucun moment, on ne leur a raconté l'histoire de la Grèce, siècle après siècle, depuis l'époque mycénienne jusqu'à l'époque hellénistique. À aucun moment on leur aura raconté l'histoire romaine, ils sont en sixième justement. Les cours d'histoire de sixième, on peut en avoir la trace dans les manuels qui subsistent. Hein. C'était des cours élémentaires. On n'allait pas raconter évidemment à des enfants de 10 ans ou 11 ans tout le détail des querelles entre Cicéron qui était dit était néanmoins vrai et précis. Hein. Alors sur cette et donc on ne leur aura pas non plus fait un exposé anthropologique sur ce que sont les religions antiques et ou primitives sur ce que c'est qu'un sacrifice, un rite, une fête, hein, sur aucun sujet qu'ils vont devoir aborder dans cette séquence, ils n'auront eu réellement un enseignement rationnel. Donc ce qui est pire, donc ils ne sauront rien, et moi j'en sais quelque chose puisque ma passion sur ces questions de la crise de l'enseignement en France est très largement liée au fait que pendant 35 ans j'étais au jury des grandes écoles, HEC et le SCP, et que j'ai vu le niveau se dégrader d'année en année, si vous voulez. Et je suis tombé sur des gens qui avaient les plus hauts diplômes, y compris des agrégations, et qui ne savaient pas très bien à quelle époque César avait vécu. Bon, je ne savais pas très bien si c'était avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Vous pensez que j'exagère là. Un agrégé de philosophie était incapable de citer un seul philosophe entre Aristote et Descartes. Alors comment est-ce qu'il avait eu son agrégation de philosophie? Bon voilà, il n'avait plus au professeur. Mais en tout cas, il n'avait pas acquis ses cadres antérieurement, si vous voulez. Mais ce qui est vrai, même de quelques agrégés, est vrai à plus fortiori de gens qui sont titulaires de licence, de maîtrise, parce que pour se présenter au concours que je faisais à HEC et à l'ESCP, il fallait avoir justement un diplôme d'études supérieures. Donc c'était tous des gens qui avaient au moins une licence ou une maîtrise, et avec des lacunes absolument incroyables, incroyables, parce qu'ils n'avaient rien appris rationnellement. En particulier pour tout ce qui concerne l'histoire, il n'avait aucun sens de la chronologie. Il ne sait pas très bien si Jeanne d'Arc est avant Napoléon ou l'inverse, si vous voulez. Hein. Voilà, j'exagère un tout petit peu avec cet exemple-là. Mais en tout cas, ils ne savent pas très bien si Cassini a vécu au Moyen-Âge ou au XXe siècle. Hein.
Donc votre thèse est assez simple et redoutable, c'est-à-dire qu'on les a formés à ne pas penser, on les a formés à avoir des bribes de pensée, mais qui ne sont pas reliés, et à s'habituer à ne pas penser, c'est-à-dire que s'ils comprennent pas quelque chose, ils disent ben c'est normal, personne n'y comprend rien, parce que personne n'y comprend rien. Donc il y a plus du tout ce qu'on avait quand j'étais jeune, c'est-à-dire une espèce de respect du maître. Moi je suis tombé sur quelques maîtres exceptionnels, j'imagine que vous aussi dans votre vie, on se tournait vers lui quand on avait une question sur le sens, sur le sens de ce qu'on cherchait à apprendre. Et ça, donc ils n'ont pas du tout la tentation de se tourner vers leur professeur quand ils ont un problème.
Je me t'entends plus.
Non. Oui. Et quand ils ont un problème, ils ne se tournent plus vers le maître, ils se tournent vers Internet.
Oui, d'ailleurs l'idée générale c'est que ce n'est plus la peine d'apprendre rien puisque tout est sur Internet, instantanément. Mais évidemment, ça c'est faux, puisque ce qui est sur Internet, c'est une information hors contexte. Hein. Et donc, si vous n'avez pas le contexte, vous ne pouvez pas tirer profit d'une information que vous avez sur Internet. Si vous ne vous souvenez pas très bien de quand Jules Michelet est né, je dis ça parce que précisément, moi, je m'en souviens, j'ai toujours su, je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'étais en Cannes, le professeur a dit, tiens, Jules Michelet, mais en fait, quand est-ce qu'il est né? J'ai dit, 1798. J'ai toujours su la date de naissance de Jules Michelet, ne me demandez pas pourquoi. Bon, mais si quelqu'un n'a pas la date de naissance de Michelet exacte, il peut se taper sur Internet pour avoir la date.
Donc si je vais juste... Voilà, il fallait qu'il sache qui est Michelet. Déjà, ce serait bien. Mais si je continue le raisonnement, on ne peut pas avoir des citoyens qui ne savent rien, qui ne comprennent rien. L'école a complètement trahi sa mission laïque.
Absolument. Donc, c'est une trahison. Les fondateurs de la fameuse école dite républicaine, qui en réalité est plus ancienne, avaient prétendu la fonder sur les Lumières. C'était d'ailleurs le motif de leur lutte contre l'école catholique.
Oui, bien sûr.
Et les malheureux fondateurs comme Jules Ferry ou comme Félix Pécaud ou comme Louis Liard, hein, le grand Louis Liard, ou même Ferdinand Buisson, doivent se retourner dans leur tombe Quand de là où ils sont, ils entendent dire, ils entendent parler de la situation actuelle.
Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut arriver à la dernière partie de cette présentation. Vous essayez de recréer un enseignement, enfin une école de, au moins au sommet de qualité comme elle existait autrefois. Mais qu'est-ce qu'un citoyen comme moi peut faire?
Mais si vous voulez, il y a un blocage politique très 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 profond et très grave pour la raison suivante. C'est que au moment où cette transformation avait lieu, c'est-à-dire cette dégradation profonde de l'enseignement secondaire, hein, dégradation s'accompagnant de son extension, hein, puisque il y a eu dans la décennie 60 et 70 une augmentation par 6 ou 7 du nombre d'élèves de l'enseignement secondaire. Hein. Et donc, on ne pouvait pas trouver, d'ailleurs, comme il y a eu une augmentation, une multiplication par 20 du nombre d'étudiants. Hein. Donc, comme un pays ne peut pas trouver subitement 7 fois plus d'agrégés ou 20 fois plus de savants qu'auparavant, cette massification a commencé par l'effondrement du niveau des professeurs. Bon. Donc, pourquoi est-ce que le pays a laissé faire de cette façon? Parce que ça se passait à un moment où les femmes se sont mises à travailler. Et donc, elles ont quitté la maison, si vous voulez. Et donc, l'école est devenue le lieu où les enfants sont gardés pendant la journée. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Vous savez bien que quand Jules Ferry a créé l'école obligatoire, c'était un drame parce que les paysans ne voulaient pas envoyer leurs enfants travailler alors qu'ils avaient besoin d'eux à la ferme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les grandes vacances d'été, pour que les enfants puissent aider aux boissons, hein, puisque c'est évidemment l'été que les paysans ont plus de travail. Mais les parents ne peuvent plus vivre sans avoir deux salaires, et ils ne peuvent pas avoir de salaire s'ils ne travaillent pas tous les deux toute la journée, et ils ne peuvent pas travailler toute la journée s'ils ont leurs enfants sur les bras. Donc, l'école a servi de relais. Et comme elle s'acquittait passablement de ce rôle de garderie, je dis passablement, mais maintenant il y a drogue, coup de couteau, insécurité, bon. Mais enfin, elle s'acquittait passablement de ce rôle de garderie, on l'a dédouanée de ne plus s'acquitter aussi bien de son rôle d'école. Et par conséquent, si vous dites qu'il faut revenir en arrière à la situation scolaire qui existait dans les années 50, eh bien, vous heurtez à une impossibilité sociologique. Hein. Et aucun homme politique, si vous commencez ce discours auprès d'un homme politique, ça m'est arrivé plusieurs fois, il lève les bras au ciel et je ne veux pas en entendre parler. Hein. Vous dites des folies. Alors, ceci dit, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque justement, à la suite de quelques articles que j'ai fait récemment, j'ai été contacté par 3 hommes politiques qui ont dit qu'ils voulaient mener ce combat. Mais je ne les citerai pas, pour ne pas leur faire d'enfant dans le dos pour l'instant, parce que c'est prématuré. Mais il commence à y avoir un peu une prise de conscience, si vous voulez, parce que vous avez quand même beaucoup d'employeurs qui constatent que leurs jeunes employés n'ont pas les capacités qu'ils avaient eux-mêmes au même âge, et qui ne comprennent pas pourquoi, et qui s'en désolent pas seulement de façon abstraite, mais qui s'en désolent parce que du coup, leur boîte ne peut pas marcher comme elle devrait marcher. Si les gens font 5 fautes d'orthographe par paragraphe, on ne peut pas leur confier de rédiger des contrats, etc. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience, et puis d'ailleurs aussi sur le plan scientifique, il y a de moins en moins d'étudiants en sciences en France. Du coup, il y a encore quelques prix Nobel, mais qui se raréfient. Hein. Et puis, le niveau scientifique baisse, y compris à l'école polytechnique, car j'ai entendu dire, moi je ne suis pas compétent, mais j'ai entendu dire par des gens très sérieux que le niveau de mathématiques des jeunes polytechniciens était inférieur à celui de leurs aînés, ce qui n'enlève rien bon, avec les Normaliens sciences. Hein. Donc, c'est les premiers de leur génération. Mais ils n'ont pas commencé l'étude des mathématiques assez tôt et avec d'assez bonnes méthodes pour qu'ils parviennent à l'âge de la classe préparatoire et du concours de polytechnique à la même excellence que celle à laquelle parvenaient leurs aînés. Donc, pour l'instant, vous avez encore une grande réputation des ingénieurs français dans le monde entier, mais si le niveau des ingénieurs français baisse, c'est une catastrophe, parce que toute l'économie, tout un aspect fondamental de l'économie française, dans les pays enfin, qui vous voyagez, notamment dans les pays que vous connaissez bien, les pays asiatiques, où j'ai visité des écoles, j'aime autant vous dire que ce n'est pas la même atmosphère qui règne. J'ai visité une classe de 6e au Japon, hein, dans un collège d'ailleurs privé. Hein. une junior high school, comme ils disent, hein. Junior high school. Bon. Et j'étais pas sûr pour moi parce que j'allais voir tous ces petits asiatiques mignons comme tous les enfants, mais en plus ils sont asiatiques. Bon. Alors je rentre dans la classe où régnait un grand silence et avec le directeur de l'établissement et le professeur était prévenu de notre visite. Et puis grand silence et les enfants concentrés sur quelque chose. Alors je demande mais monsieur que font-ils? Il me dit, monsieur, en baissant la voix, ils sont en train de faire le plan de la bataille de Marathon. Alors, j'étais soufflé, c'est des élèves de sixième, des élèves japonais de sixième. Donc, j'ai appris après qu'au Japon, il y avait deux cours d'histoire, un cours d'histoire du Japon, puis un cours d'histoire du monde. Mais ce cours d'histoire du monde commençait, comme nous avons fait nous-mêmes quand nous étions en sixième, par l'Antiquité, et ils apprenaient ce que nous apprenions nous-mêmes. Moi j'ai appris le plan de la bataille de Marathon. Et donc, c'est un tableau complètement différent de celui des collèges français. Et j'ajoute que quand je suis allé pour la première fois au Japon, vous savez, il y a le décalage horaire que vous connaissez bien. Et donc, à moitié endormi, mais très, très, très excité et très pressé d'aller voir le palais impérial tout ça, et d'aller visiter un musée, n'importe lequel, j'arrive près du palais impérial et je tombe sur le musée de la science, que je croyais être le musée de la science de Tokyo. J'ai appris plus tard qu'il y en avait 5. Alors je rentre et je vois des enfants absolument concentrés dans chaque salle avec leurs parents et essayant de comprendre à fond la démonstration qui était faite dans cette salle. Et je me souviens de m'être dit, alors je me dirais que j'étais à moitié endormi ou mal réveillé, mais j'ai eu une impression assez, je me suis dit, mais ces gens-là vont nous dominer, et cet attachement au savoir fondamental. Quand vous comparez ça au spectacle que vous avez à la Cité des Sciences à Paris, où vous avez des ribambelles de gamins accompagnés par des instituteurs pas très reluisants d'allure, hein, et qui se promènent en hurlant d'une pièce à l'autre, vous êtes frappé par le contraste. Et évidemment, c'est pas que nos enfants soient inférieurs en rien aux petits japonais que j'ai vus, mais c'est simplement que dans leurs écoles, les petits japonais sont formés à l'étude méthodique des sciences. Donc, quand ils vont dans un musée des sciences, ils s'apprêtent à voir physiquement des appareils dont ils ont déjà entendu parler théoriquement dans leurs cours. Alors que les jeunes français, bon, voilà, ils ont eu une séquence sur on ne fait plus de science dans les collèges, hein, c'est du journalisme scientifique. Donc ils ont eu une séquence sur le réchauffement de la planète, ils ont eu une séquence sur le problème des déchets nucléaires, ils n'en ont eu que des impressions journalistiques. Et donc quand ils arrivent à la Cité des Sciences de la Villette, ben, ils continuent sur le même mode, ils sont toujours dans les impressions, hein, et ils vont en courant et en hurlant.
Donc on va vers une bien... Vous me terrifiez. Vous me terrifiez parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a encore des points d'excellence dans certaines écoles en France. J'ai des petits enfants qui sont passés par des écoles. Il y a encore des points d'excellence. Il y a encore des gens qui font leur boulot. L'école dont vous parliez tout à l'heure en fait certainement partie. Mais c'est extraordinaire de voir comme les décisions qui ont été prises il y a 50 ou 70 ans peuvent foutre un pays en l'air 70 ans après, quoi. Sans que personne, à un moment ou à un autre, ne se lève et se dise, écoutez, ça va pas, quoi. Non, ça suffit, d'ailleurs. Donc, et ça, ce que vous dites de l'école se passe dans l'ordre public, se passe dans l'armée, se passe dans l'identité nationale. Bref, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Des gens qui ont des sensations, qui ont des sentiments, mais qui ne savent rien, quoi. C'est ce que vous décrivez, quoi.
Et ces gens acquièrent des diplômes et occupent des postes.
Oui. Et donc, continuent à répandre leur...
d'être jugé par un juge complètement crétin, si vous voulez. Comment un juge crétin, illettré, qui ne comprend rien à rien et qui, par conséquent, ne va pas se permettre de trancher sur des questions dont il n'a pas la moindre idée de la complexité. Ou alors, vous risquez d'être à tous les niveaux, si vous voulez, de l'administration, le niveau...
C'est l'impression qu'on a souvent quand...
à chaque niveau, si vous voulez, n'est plus garanti. Oui.
Mais ce qui est étonnant, c'est j'ai l'impression que j'avais depuis toujours, c'est que si je connais deux ou trois sujets dans ma vie passablement bien, et quand je lisais des articles dans les journaux sérieux sur ces sujets écrits par exemple, je me disais, le type, il comprend rien, quoi. Donc, mais ce qu'il y a d'affolant, c'est que probablement, sur tous les sujets où vous connaissez quelque chose, le journaliste, il y comprend rien, et le professeur, il n'en sait pas plus. Donc, ce que vous êtes en train de décrire, c'est un monde en voie d'abrutissement.
En tout cas, le nôtre.
Le nôtre est en voie d'abrutissement.
Notre Occident.
C'est une France en voie de décadence.
Mais voilà.
Je pense pas que ce soit le monde. Hein. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous qu'il y a plein d'exceptions, parce que comme la France est un très grand pays, si vous voulez, il faut quand même pas oublier qu'entre 1800 et 1930, la moitié des découvertes techniques et scientifiques ont été faites en France. C'est un des premiers cerveaux du monde, la France. Donc, vous supprimez pas ça en 20 ans ou en 30 ans. Donc il y a des quantités de beaux restes, il y a des quantités d'écoles où des professeurs excellents font leur travail, mais ceci dit, ils n'ont plus le cadre qui leur permettait de faire leur travail jusqu'au bout, jadis. Parce qu'ils ont des classes, et si eux sont des bons professeurs, peut-être que les élèves qui sont aujourd'hui dans la classe de ce bon professeur ont été pendant des années dans des classes tenu par des professeurs illettrés. Hein. Voilà. Mais ceci dit, malgré tout, l'humus culturel français est tel qu'il y a encore plein de gens bien éduqués, et d'ailleurs dans tous les milieux, pas seulement les milieux bourgeois, vous avez des milieux populaires où les parents ont le sens parfaitement du progrès, de la raison, et qui tiennent solidement, enfin qui encadrent leurs enfants. Bon. Et l'histoire scolaire française est pleine de réussites parfaites, de gens d'origine très modeste, mais qui, quand l'école était efficace et méritocratique, étaient repérés par les professeurs et du coup étaient mis dans les bons cursus et finissaient par avoir les plus hauts diplômes.
C'était Camus et Germain, et M. Germain, quoi. C'est l'histoire de Camus et de M. Germain, quoi, qu'il découvre et alors qu'il est illettré, que ça va être illettré et puis qu'il en fait.
C'est le cas de. Il y a des milliers de cas, si vous voulez. Et un des effets pervers les plus horribles, les plus terribles, parce que c'est toujours comme ça le communisme. Hein, c'est toujours. Comme il est contraire à la nature, il ne peut que produire des effets pervers. Et donc, cette massification de l'école était destinée à réduire les inégalités sociales.
Et elle les a creusées.
Elle les a creusées. Voilà. Pour une raison qu'on aurait pu anticiper, mais mettons que ce soit difficile d'anticiper. Mais en tout cas, elle est devenue très crédible. Si l'école n'enseigne rien, eh bien les gens qui ont des sources d'instruction extérieures à l'école sont privilégiés par rapport à ceux qui n'ont pas.
Mais c'est évident. Ou ceux qui ont accès à des écoles spéciales. C'est-à-dire
ou
de l'argent pour payer des profs particuliers. Donc, grosso modo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut casser la massification de l'école. Il faut redonner aux citoyens, à chaque citoyen, le choix de l'école où il mettra ses enfants en lui donnant un ticket d'école, quoi. Et qui présentera l'école de son choix.
Là, après, vous avez plusieurs stratégies possibles. Mais ce qu'il faut pour que le pays. Parce que si vous voulez, c'est très grave, c'est la ruine du pays.
C'est la ruine du pays, exactement.
La ruine du pays. Donc, si les hommes politiques sont capables de prendre conscience de ça, il faut rétablir un enseignement secondaire véritable. Voilà. Et dans tous les pays comparables, l'Allemagne, l'Angleterre, qui a essayé la massification, mais qui est revenu en arrière après, hein, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes syndicaux, ou alors ça a été brisé par Mme Thatcher, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient condensé l'école unique, et puis, si vous prenez des pays comme la Suisse ou comme la Hollande, qui ne passent pas pour des pays fascistes, hein, il n'y a jamais eu d'école massifiée. En Suisse, il y a 15% de bacheliers. En Hollande, 17%, quelque chose comme ça, ou à moins que soit l'inverse, 17% en Suisse et 15% en Hollande, c'est une très faible proportion. Seulement les autres ne sont pas des gens qui ont échoué et qui ont un sentiment d'échec. Moi, j'ai pris un jour en stop-top et je leur dis, alors, ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiant? Non, étudiant, du genre, pour qui nous prenez-vous? non, on est dans une école technique, on va bientôt terminer. Et puis il y a une formation professionnelle et technique faite soit par les professions elles-mêmes, soit par le système national d'éducation en liaison avec les professions, qui fait qu'il y a plein de perspectives excellentes pour des gens qui n'ont pas envie de faire des études longues. Et ils vont avoir un emploi et ils vont être très bien payés et souvent d'ailleurs mieux que les étudiants. Hein. Et d'où le côté un peu bravage de mes deux autostoppeurs. Hein. Mais vous avez dans tous les pays comparables un enseignement secondaire long et un enseignement secondaire court articulé avec des études professionnelles. Et c'est ça qu'il faut impérativement créer en France. Il faut dire que l'école unique était une erreur. Et alors maintenant, que ça se fasse par décision étatique de l'éducation nationale, on peut toujours rêver hein, qu'un ministre décide de faire ça, hein, mais évidemment, il se heurtera à toutes sortes d'oppositions. Mais s'il a un discours rationnel, précisément, pour dire pourquoi il veut faire ça et comment il va le faire, il aura le pays avec lui. Hein, parce qu'évidemment, le pays, il a besoin d'ingénieurs connaissant les sciences de l'ingénieur, il a besoin d'administrateurs capables d'administrer. Donc l'existence d'un enseignement secondaire de qualité, alors, ça veut dire des vraies classes intellectuellement homogènes, telles qu'un professeur puisse faire cours devant 30 élèves en sixième, en étant compris des 30 élèves. Donc ça suppose une homogénéité intellectuelle. Et les socialistes ont arrivé à créer ce monstre de créer des classes intellectuellement hétérogènes, et socialement homogène, parce que comme ils ont créé en plus la carte scolaire, les enfants des milieux populaires sont enfermés dans les écoles de leur quartier, et en même temps ils sont mélangés entre les bons et les mauvais. Donc c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut faire une école socialement hétérogène, comme était ma classe de lycée. Dans ma classe de lycée, j'avais des gens qui venaient de tous les milieux. Et puis, mais intellectuellement homogène, pour que on puisse initier les esprits à la démarche scientifique depuis la classe de 6e dans un cursus organisé jusqu'au bac. Il faut absolument reconstituer ça, et encore une fois, ça peut être fait par le public, ça peut être fait par le privé, par les deux. Hein. On peut créer des établissements dérogatoires publics qui vont faire ça et qui diront clairement que dans ces établissements, on entre par un examen et on est renvoyé si on ne suit pas et on peut recruter des étudiants à d'autres niveaux pour remplacer ceux qui n'ont pas pu suivre, de telle sorte que le travail de l'enseignement secondaire puisse être fait correctement. Mais on peut aussi imaginer qu'on autorise des écoles privées avec des contrats d'un autre type que le contrat Debré. Hein. Voilà, ça c'est une question de moyens, on peut en discuter. Mais sur le fond, le pays est fichu, il va se tiers-mondiser si on continue sur cette voie de l'éducation.
Bah écoutez, c'était passionnant, et on vous sent passionné d'ailleurs. On vous sent passionné. C'est beau d'être passionné par l'éducation après avoir passé 60 ans dedans, c'est merveilleux. Mais je vous remercie beaucoup, ça paraîtra donc sur notre site d'ici une semaine, ou quelque chose comme ça, le temps de monter, tout ça, on a un petit... Mais j'espère qu'on aura beaucoup de vues et beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens qui viendront vous poser des questions aussi, parce que ce que vous avez dit était, je crois, extraordinairement important pour notre pays.
Merci beaucoup.
Merci.